Voilà. Donc, Romains chapitre 14, nous lisons, faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi, sans discuter des opinions. Ici, on aborde un autre thème, voyez. Clairement, Paul a annoncé les couleurs dans Romains 12, versets 1 et 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés, ou au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon et agréable devant Dieu. Et il y a plusieurs thèmes, et là, on aborde un autre thème. Faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi, sans discuter des opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. On pense qu'ici, vu le contexte et le chapitre, ce qui est dit au début du chapitre 15, et puis le contexte général du Nouveau Testament, on pense que Paul s'intéresse particulièrement, si vous voulez, à l'époque de Paul, il n'y avait pas comme nous, aujourd'hui, les végétariens, ou les végétaliens, ou les véganes, ou les je sais pas quoi, il n'y avait pas tout ça. Enfin, il y avait peut-être, mais en tout cas, il n'y avait pas avec les mêmes termes, ou la même culture. Le problème de base qu'on a ici, c'est que les Juifs, le peuple hébreu, pendant des siècles, s'est mis à part pour Dieu, à sa manière, mais avec avec tous ses efforts et le maximum possible de fidélité. Et puis arrive l'évangile où les païens, les non-juifs, sont accueillis dans l'Alliance. Et donc tout à coup, dans la même assemblée, vous avez à la fois des juifs et des grecs, qui viennent d'arrière-plan culturel complètement différents, avec des habitudes alimentaires différentes, et ça crée des problèmes. Vous voyez, ça crée des problèmes. Et donc, celui qui ne mange que des légumes, c'est quelqu'un qui ne veut pas toucher aux viandes qui étaient vendues sur le marché de villes comme Corinthe ou Rome, parce que dans l'Empire romain de l'époque, qui était marqué par la culture grecque, très souvent, ces viandes étaient sacrifiées aux idoles avant d'être mises sur le marché. Donc, elles avaient été immolées dans un temple païen pour une déesse ou un dieu quelconque. Et ensuite, elles étaient vendues sur le marché. Donc, si vous voulez, certains, pour X raisons, qu'on peut imaginer ou comprendre, préféraient ne pas manger de viande du tout, comme ça, ils étaient tranquilles. Donc, manger que des légumes dans ce sens-là. Des gens qui ne mangent pas de viande, vous voyez. Voilà. On peut supposer que quand il dit quelqu'un ne mange que des légumes, c'est dans le sens qu'il s'abstient de viande à cause de ce problème de la viande sacrifiée aux idoles, qui était le contexte de l'époque. D'accord? Donc, tel croit pouvoir manger de tout, aussi de la viande, donc. Hein. Tel autre, qui est faible, notez bien le mot, qui est faible, sous-entendu faible dans la foi, d'après le verset 1, ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange. Qui mange, sous-entendu, de tout. Qui ne mange pas, sous-entendu, qui ne mange pas de viande, mais que des légumes. Vous suivez? Attention, Paul, il est elliptique, il dit des mots, mais il faut les expliquer derrière. Hein. Pourquoi? Il ne faut pas se mépriser ou se juger, car Dieu, lui, il nous a accueillis tous. Alors, on va relire les trois premiers versets. Faites bon accueil à celui qui est faible, faible dans la foi, sans discuter des opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible, sous-entendu dans la foi, ne mange que des légumes. Que celui qui mange, sous-entendu de tout, ne méprise pas celui qui ne mange pas, sous-entendu de la viande. Vous voyez ? Et que celui qui ne mange pas, sous-entendu de la viande, ne juge pas celui qui mange, sous-entendu, de tout. Car Dieu lui a fait bon accueil. C'est-à-dire que toi, qui es juif de tradition et qui te tiens la loi de Moïse, tu vas juger le grec que Dieu a accueilli parce qu'il a été sauvé par la foi, et tu vas juger parce que lui, il mange des choses que toi, tu ne manges pas. Ne le juge pas. D'accord ? Laisse Dieu s'en occuper. Verset 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir. Sous-entendu, quand tu juges un frère dans la foi, n'oublie pas qu'il a un maître, c'est Jésus-Christ. Donc si tu le juges, tu juges son maître. C'est à son maître de s'occuper de lui, c'est pas à toi de remplacer son maître. Vous voyez ce que je veux dire? Donc laisse faire, t'occupe pas. Hein? Tel juge un jour supérieur à un autre. Tel autre les juge tous égaux. Que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée. C'est-à-dire, le jour, par exemple, le dimanche, pour nous, aujourd'hui on dirait. Il y en a pour qui le dimanche, on ne fait pas la lessive. D'accord? C'est un péché capital de faire la lessive le dimanche. Des gens qui pensent ça. Des bons chrétiens. Hein, on est d'accord. Parce que c'est le jour du Seigneur, on se repose. Donc on ne fait pas la lessive le dimanche. Vous voyez? Il y a beaucoup de familles chrétiennes chez qui c'est... Même moi, j'avoue que si ma femme fait la lessive le dimanche, je suis choqué. Vous voyez? C'est la vérité. J'ai été élevé comme ça, c'est mon éducation. Vous suivez? Il y a même des familles où on ne cire pas les chaussures le dimanche matin, on les cire le samedi soir, parce qu'on se prépare pour le culte le dimanche et samedi soir, mais le dimanche, on se repose. C'est le jour du repos, oui ou non? Vous comprenez? Donc tel juge, tous les jours égaux. Donc il fait sa lessive le dimanche, fichez-moi la paix, vos histoires. Tel juge, tel autre, dire, ben non, je ne fais pas la lessive le dimanche. Je vous prends un exemple typique de ce qu'on pourrait avoir entre les chrétiens aujourd'hui. Mais à l'époque de Paul, quand il dit ça, c'est qu'il y avait les fêtes juives, il y avait Pâques, il y avait les jours des pains sans levain, il y avait le Yom Kippour, il y avait tout ça. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent du monde grec, qui ne connaissent rien à rien, et eux, tout à coup, le jour du Yom Kippour, ils vont se faire un McDo. Alors là, c'est la catastrophe. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que Paul, il dit... Tel juge, il y en a qui pensent que, il y en a d'autres qui pensent que, vous voyez? Que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée. Ça veut dire, soyez cohérent entre ce que vous croyez et ce que vous faites. Ne soyez pas des hypocrites. Si vous êtes convaincu que tous les jours sont égaux, eh ben soyez convaincu et comment dire, agissez selon vos convictions. Ne soyez pas des hypocrites. C'est ça que ça veut dire. Si vous êtes convaincu que le dimanche, il ne faut pas faire la lessive, ben ne la faites pas. Et puis fichez-nous la paix. Vous voyez? Alors, là, ce n'est pas que c'est bien de faire la lessive ou c'est pas bien de faire la lessive. Ce qui est bien, c'est d'être cohérent entre ce que tu crois et ce que tu fais. C'est ça qui est bien. Vous voyez? Donc, bref. Alors, ensuite, verset 6. Celui qui se préoccupe des jours s'en préoccupe pour le Seigneur. Se préoccuper des jours, ça veut dire, pour moi, le dimanche, c'est le jour du repos. Ou bien, pour moi, c'est samedi, parce qu'il y a les adventistes qui vous diront, le dimanche, nous, on fait la lessive, mais pas le samedi. Ou bien, il y en a d'autres qui diront, Pâques, etc. Et puis, il y a la Pâque juive, puis il y a la Pâque chrétienne, puis il y a la Pâque orthodoxe, ça fait trois Pâques différentes. Alors, on ne sait plus où est-ce qu'on en est, vous voyez. Mais, il dit, celui qui se préoccupe des jours s'en préoccupe pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, alors, de nouveau, celui qui mange, sous-entendu, de tout. Celui qui ne mange pas, sous-entendu, de la viande, dans le contexte, vous voyez? Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Il rend aussi grâce à Dieu. En d'autres termes, il dit, en fonction de votre conviction, ce qui est bien, c'est de servir Dieu. Si ce que vous faites, c'est pour le Seigneur que vous le faites, alors faites le bien. Allez jusqu'au bout de vos convictions. On se moque pas mal qu'il y en a un qui respecte le jour, l'autre qui respecte un autre jour. Ce n'est pas le problème. La question, c'est qu'on le fait pour le Seigneur. Soyez cohérents entre ce que vous croyez et ce que vous faites. Vous voyez ? En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Donc, sous-entendu, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. D'accord? Jésus-Christ va juger les vivants et les morts. Et donc, c'est lui qui jugera. On ne s'appartient pas à nous-mêmes. On est serviteur du même Seigneur. C'est à lui qu'on va rendre compte. Donc arrêtons de nous juger les uns les autres. Vous suivez? En fait, il développe ce qu'il a dit un peu plus haut, verset 4. Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Vous voyez? Verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue confessera Dieu, littéralement, ou donnera gloire à Dieu, mais dans le sens de confesser Dieu. Hein? Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Usez plutôt de votre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Donc, en d'autres termes, Paul pose un principe de base, c'est qu'on aura chacun à rendre compte devant Dieu pour nous-mêmes. Vous voyez? On a une conscience. Et notre conscience ne doit pas se laisser troubler par quelqu'un qui vient nous imposer une nouvelle manière de faire. Et souvent, les chrétiens se laissent facilement, mais très facilement, je suis étonné, que des églises se laissent imposer des choses. Tout à coup, il y a un prédicateur qui arrive et qui dit maintenant, c'est comme ça qu'il faut faire, sinon vous ne plaisez pas à Dieu. Et tout à coup, toute l'église se met à faire je ne sais quel truc. D'accord? Soit ils judaïsent, excusez-moi l'expression, mais c'est quand même le cas. Ils vont essayer maintenant de pratiquer toutes les fêtes juives, ils vont se mettre une kippa sur la tête, c'est tout juste s'ils ne vont pas se faire circoncire. Soit alors c'est maintenant le système des. Où il y avait l'époque du G12 qui venait de Bogota, il fallait que tout le monde se mette, il fallait être dans une cellule de maison, et puis il fallait avoir 12 personnes dans la cellule. Enfin, c'est comme ça que ça avait été interprété, alors que c'était beaucoup plus. C'était pas ça en réalité, mais. Il fallait qu'il y ait 12 personnes dans votre groupe, il fallait que les hommes soient avec les hommes, les femmes avec les hommes. Enfin, tout un système, vous voyez, qui a marché à Bogota, qui avait été inspiré de Dieu là sur le moment, mais qui n'était pas quelque chose qu'il fallait imposer à tout le monde. Vous suivez? Alors, tout à coup, il y a un prédicateur qui arrive, qui vous parle de ça, le pasteur dit, c'est bien, c'est ce que je veux pour mon église, et puis il met sur tout le monde un joug que personne ne peut porter. Vous suivez? Parce qu'il n'y a pas le réveil, il n'y a pas. Le courant du Saint-Esprit qui permet de vivre ces choses de la bonne manière. Et donc, on s'impose à soi-même des jougs, des choses que personne n'arrive à porter, parce qu'on n'a pas, on n'a même pas veillé à ce que la base soit posée. Est-ce que ces chrétiens sont seulement convertis? Est-ce qu'ils ont seulement compris la grâce de Dieu? Est-ce qu'ils ont déjà amené au moins une personne au Seigneur? Est-ce qu'ils savent ce que c'est que le Saint-Esprit? S'il n'y a pas ces bases qui sont posées, essayez de mettre des cellules, etc. Ça ne marchera jamais. Vous suivez? C'est trop lourd à porter. Et donc, Paul est en train de nous dire, chacun de nous rendra compte de Dieu pour lui-même, arrêtez de vous juger les uns les autres, ou de vous mettre sur les épaules les uns des autres des jougs que vous avez pas, que vous-même, vous n'auriez pas pu porter. C'est ce que Pierre dit dans Acte 15. Vous voyez? Regardez avec moi dans Acte 15. Donc ce que je voulais dire, c'est que souvent, il y a des églises entières qui montent dans des bateaux incroyables, qui se font mener en bateau, et puis au bout de quelques années, ils se rendent compte qu'ils ont servi une vision humaine et qu'ils ne sont même pas dans ce que Dieu leur demande. Et les chrétiens sont épuisés, et il y a des églises qui se vident, comme ça. Le Saint-Esprit, il est parti depuis longtemps. Il est parti depuis longtemps. On pense être plus spirituel que tout le monde, vous voyez, je veux dire. Acte 15. Il y avait une grosse affaire à examiner parce qu'il y avait des païens, des non-juifs qui s'étaient convertis, qui avaient été baptisés. Et le parti des pharisiens à l'intérieur, parce que tout le monde à Jérusalem avait suivi la foi en Jésus-Christ, il y avait des foules de sacrificateurs qui obéissaient à la foi en Jésus-Christ. Il y avait des pharisiens parmi eux. Et donc ces pharisiens disent, attendez, il faut les circoncire, il faut qu'ils suivent la loi de Moïse pour qu'ils puissent être baptisés et acceptés dans la communauté chrétienne. À l'époque, on ne disait pas chrétienne, la communauté qui suit Jésus. Pour eux, ils étaient des juifs accomplis parce qu'ils avaient la loi de Moïse et en plus, ils avaient le Messie, donc tout était bon pour eux. Donc ils disent, ces Grecs-là qui arrivent, et il faut les mettre au pas un petit peu. Hein? Qu'est-ce que répond Pierre? Verset 7. Frères, vous le savez, dès les tout premiers jours, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par la bouche des païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Les païens, ça veut dire les nations, littéralement. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, Acte 15, 8, en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. ce qui est donc un signe d'acceptation. Dieu, lui, il les accepte, il les a inclus dans la communauté, sans passer par la circoncision, sans passer par les 613 commandements ou 612 commandements de la loi de Moïse. D'accord? Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, verset 10, pourquoi tentez-vous Dieu et mettez-vous sur le cou des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas été capables de porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Sous-entendu, même nous, avec tous nos commandements, on n'a pas réussi à être sauvés. Et même nous, on avait besoin de la grâce de Dieu. Ça va jusque-là? Vous êtes d'accord? Donc, si on rejoint à ce qu'il dit Paul dans Romains chapitre 14, verset 13, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Usez plutôt de votre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » On va voir à quoi est-ce que Paul fait allusion ici, par la pierre d'achoppement ou l'occasion de chute, un peu plus loin. « Je sais, verset 14, et je suis persuadé, on est toujours dans Romains 13, dans le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un estime qu'une chose est impure, alors elle est impure pour lui. Si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Ce qui est bien pour vous ne doit pas être un sujet de calomnie ou de blasphème. Dans la vieille seconde, c'est marqué ce qui est que votre privilège, mais c'est une mauvaise traduction. La bonne traduction, verset 16, ce qui est bien pour vous ne doit pas être un sujet de blasphème ou de calomnie. Alors, qu'est-ce que Paul est en train de nous dire ici? D'un côté, ne nous jugeons plus les uns les autres, mais d'un autre côté, ayez du discernement par rapport à chaque circonstance. Et si vous êtes fort dans la foi, et que vous êtes à côté de quelqu'un qui est faible dans la foi, faible dans le sens que pour lui, toutes ces choses-là sont importantes, pas manger de viande, respecter tous les jours, etc., et que vous arrivez avec vos gros sabots en disant « Mais tout ça, c'est n'importe quoi. Regarde-moi, devant toi, je mange de la viande et je bois un coup de pinard. Et puis, je fais ma lessive le dimanche pour bien te montrer que je suis libre dans la foi. » Ce n'est pas intelligent. Pourquoi? Parce que cette personne, quelque part, pour elle, dans sa conscience, ce que tu fais, c'est mal. Et si toi, qui es chrétien, tu fais ce qui est pour elle mal et qui pour toi n'est pas un problème de conscience, tu la pousses à renier sa propre conscience et donc à pécher. Vous voyez? Donc, ne fais pas ça. À pécher, non pas à pécher dans le sens de ne pas être cohérent entre ce que la personne croit et ce qu'elle fait. D'accord? Tout ce qui n'est pas à la fin du chapitre 14, Paul dit, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Tout ce qui n'est pas de la foi est péché. Donc si la personne n'agit plus dans la foi, elle est dans le péché. S'il n'est plus dans la conviction, s'il n'y a pas de cohérence entre ce qu'elle fait et ce qu'elle croit, c'est pas bien aux yeux de Dieu. Vous suivez? Maintenant, vous me direz, oui, mais alors finalement, c'est quoi qui est bien? C'est de manger de la viande ou pas de manger de la viande? Paul dit, vous inquiétez pas de ça. D'accord? Le problème n'est pas là. Le problème est un problème de relation entre les uns et les autres. D'un côté, ne laisse pas celui qui est plus faible dans la foi te juger par rapport à ta liberté. Mais d'un autre côté, ne cause pas la chute d'un frère plus faible dans la foi en faisant état de ta liberté devant tout le monde et en éclaboussant tout le monde avec ta liberté. Vous suivez la difficulté? On marche sur ce qu'on appelle un chemin de crête, c'est-à-dire que si tu vas trop à droite, tu vas tomber sur la pente de droite, si tu vas trop à gauche, tu vas tomber sur la pente de gauche. Il faut rester sur la crête, là c'est stable, c'est solide, mais il ne faut pas dévier. Il ne faut pas d'un côté faire de ta liberté quelque chose qui va tuer les autres, il ne faut pas de l'autre côté laisser les autres juger ta liberté. Il faut rester sur le chemin de crête. Pas évident, mais c'est possible. Vous suivez? D'un côté, il ne faut pas être hypocrite, et d'un autre côté, il ne faut pas user de notre liberté pour éclabousser tout le monde. Pas d'hypocrisie, pas d'orgueil. En bref. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il dit, verset 15, « Ne cause pas par ce que tu manges, la perte de celui pour lequel Christ est mort. Parce que finalement, on travaille pourquoi? Pour le royaume de Dieu. Et notre but finalement, c'est que le royaume de Dieu avance. Car le royaume de Dieu, dit Paul verset 17, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. En d'autres termes, ce que tu manges ou ce que tu bois, ça n'a pas d'importance, sauf les excès de table, évidemment. Parce que là, on touche à la question du royaume, parce que tu es dans le sommeil et tu te laisses aller. Et c'est les convoitises de la chair. Mais on ne parle pas d'excès de table ici, on parle de ce qui est permis ou pas permis. Il dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas je peux pas, j'ai le droit, j'ai pas le droit, c'est dimanche, c'est pas dimanche, c'est pas ça le royaume de Dieu. Je suis adventiste, je ne suis pas adventiste. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par Saint-Esprit. Donc, comme on travaille pour le royaume de Dieu, on ne va pas s'arrêter à ces choses, je peux manger, je ne peux pas manger, qui vont nous diviser. Parce que si on est divisé, il n'y aura plus la paix. Vous suivez? On doit être capable de travailler avec les adventistes, par exemple, qui, eux, se réunissent le samedi et non pas le dimanche, et qui ne travaillent pas le samedi et non pas le dimanche, pour des raisons qui sont les leurs. Je ne vais même pas rentrer dans le détail, je pourrais vous expliquer pourquoi, mais je ne vais même pas rentrer là-dedans. Les adventistes, par exemple, là, je suis en train de vous boire... S'il y avait un adventiste qui m'écoutait, il pourrait être choqué, je suis en train de boire... Il ne le voit pas, mais je suis en train de boire du café, là. D'accord? Pour les adventistes, c'est péché. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a une substance dans le café qui s'appelle la caféine, qui est quand même, qui pourrait être apparentée à une drogue. Vous voyez? Ça peut créer une dépendance. C'est vrai. Et le thé, c'est pareil. Un peu moins fort, mais c'est quand même pareil. Donc, quelque part, je suis limite pour un adventiste, là. Vous suivez? Si j'étais adventiste, je boirais du lait chaud. Pas du café, pas du... C'est vrai. Mais ils sont chrétiens comme nous, non? Ils ont le même Seigneur. Ils sont sauvés par la même grâce. Je ne parle pas de certaines branches des adventistes qui sont tellement sous la loi qu'ils n'ont même pas compris la grâce. Mais je parle des adventistes qui ont compris la grâce. Okay? Mais qui ont des principes. Comme nous, on a nos principes. Sauf que ça ne se recouvre pas à 100%. Vous voyez? Donc, on avait une pastorale à l'époque à Annemasse. On avait un frère qui était adventiste avec nous. Alors lui, et on déjeunait ensemble, c'était les petits déjeuners de pasteur. Lui, quand il nous accueillait chez lui, il avait son pot de lait, son lait chaud, mais il nous préparait du café et du thé. Il n'y avait pas de problème pour lui. Le café, le thé étaient sur la table, mais on savait que lui prenait que du lait. Et si nous, on l'accueillait, on lui préparait son lait chaud. Vous comprenez, je veux dire. Et on était en bonne, on savait, bon bah lui c'est son truc, il est adventiste, bon, faut pas discuter. Et lui il savait, il disait, bon bah, maintenant vous avez, j'allais plus loin, vous avez des pasteurs réformés qui fument la cigarette. C'est véridique, ils sont fumeurs. Nous ça nous choque, pour nous c'est un péché, pour eux c'est pas un péché. Vous comprenez? Est-ce que pour autant, si cet homme-là qui fume... Mais s'il prêche l'évangile, s'il aime le Seigneur, je ne parle pas de gens qui ont renié le Seigneur et qui s'appellent pasteur, ça existe aussi. Je parle de quelqu'un qui prêche l'évangile, qui fait le travail du Seigneur. Mais sur ce point-là précis, on n'est pas d'accord. Est-ce que pour autant, on va dire, j'ai vu un pasteur qui fumait, donc c'est bon, ces gens-là, je ne veux plus les voir. Non. Non. C'est pas comme ça. C'est ce que Paul nous dit ici. OK? Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix. Je sais que je suis en train de vous choquer avec mon histoire de cigarette, parce que je prends exprès un point qui est litigieux, vous voyez, dans les milieux pentecôtistes. Moi, je suis contre la cigarette. J'estime que c'est un péché personnellement, parce que ça détruit notre corps et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je pourrais donner une dizaine d'arguments sans problème bibliques contre la cigarette. Okay? Mais je ne vais pas juger mon frère pour autant. Vous suivez? Je ne vais pas juger pour autant. Parce que c'est une affaire de conscience. Pour ma conscience, c'est un problème. Si pour sa conscience à lui, c'est pas un problème, je lui dirais, écoute, tu auras des comptes à rendre avec Dieu, débrouille-toi avec ta conscience. Mais pour autant, je peux travailler avec toi pour l'évangile, ça ne me dérange pas, dans la mesure où sur l'essentiel, on est d'accord. La croix, la résurrection, le pardon des péchés, etc. etc. Vous savez ce que je veux dire? Alors, le royaume de Dieu, donc, c'est la justice, la paix et la joie par Saint-Esprit. Amen. Soit dit en passant, l'ordre de ces trois mots, justice, paix et joie, n'est pas anodin. C'est pas la joie d'abord, la paix ensuite, et puis la justice si on y arrive. C'est l'inverse. C'est d'abord la justice. Et la justice, Paul, c'est le thème général de toute l'épître aux Romains, c'est la justice par la foi. Parce que la justice a été faite à la croix, par le sang de Jésus qui a été versé pour nous. Et on reçoit la justice de Christ, et notre propre justice ne vaut rien. Donc le royaume de Dieu, c'est d'abord la justice. Il faut que la justice soit faite. Et elle a été faite à la croix. Maintenant, si la justice a été faite, à ce moment-là, on peut se pardonner les uns les autres, parce que nous avons été pardonnés en Christ. Et donc il y a la paix entre les frères. Et quand il y a la paix entre les frères, on peut se réjouir. Vous comprenez? Donc il y a un ordre logique. Mais si vous voulez fabriquer une joie artificielle sans qu'il y ait la paix, parce qu'il n'y a pas eu la justice, eh bien vous tapez à côté. Vous êtes à côté, vous êtes complètement à côté. C'est pas la vraie joie. C'est pas le royaume de Dieu. C'est quelque chose de fabriqué, c'est artificiel. Il y a des églises qui sont artificielles. En termes d'atmosphère, en termes de manière de se conduire, de se réunir. Tout est artificiel. Il y a une louange qui est artificielle. Il y a la musique, il y a les paroles. Mais il n'y a pas eu la justice. Il n'y a pas eu la repentance. Il n'y a pas eu le sang de Jésus. Vous comprenez, je veux dire? Il n'y a pas la réconciliation entre les frères. Et donc c'est artificiel. Et ça se sent. Mais quand il y a cette œuvre du Saint-Esprit profonde, de repentance, de justice, on abandonne notre propre justice, on reçoit la justice de Christ, on se repent de nos péchés, ensuite on se réconcilie avec notre frère et notre sœur, et puis on ne juge pas l'autre, mais on l'accueille comme Christ nous a accueillis, en espérant que il sera lui-même à son tour convaincu par le Saint-Esprit de choses que je ne vais même pas essayer de le convaincre. Vous suivez ce que je veux dire? Parce que ce n'est pas essentiel pour le moment. Vous voyez? Donc je vais patienter. Mais. Et à ce moment-là, il y a de la joie, il y a la présence de Dieu. Et dans cette présence de Dieu, Saint-Esprit, vous inquiétez pas, il va être capable de toucher la personne. Vous voyez? Si on juge trop vite, on détruit l'œuvre de Dieu. Il y avait une église où il y avait une prostituée qui venait de se convertir. Elle était toute fraîche dans le Seigneur, elle venait tout juste de demander à Jésus d'entrer dans son cœur. Et chaque fois qu'elle sentait la présence de Dieu, elle utilisait un mot qu'on n'ose pas utiliser. Ni chez vous, ni même ni dans votre un mot que vous utilisez quand vous tapez avec un marteau sur le doigt et que vous poussez un cri, vous dites quelque chose que normalement on ne dit pas, vous voyez. Mais c'était sa manière à elle de s'exprimer. Et puis elle disait ça dans l'église tout fort. Vous imaginez le choc des gens qui se retournaient, vous voyez. Un bon moment de louange, une bonne présence de Dieu, et elle était tellement touchée par le Seigneur. Le premier mot qui lui sortait, c'était celui-là. C'était son vocabulaire à elle. Parce qu'elle sortait directement du trottoir. Elle arrivait dans l'église. Vous suivez? Il y avait de quoi être choqué. Mais si vous lui tombez dessus à bras raccourcis, dans la minute qui suit, vous allez la faire sortir de l'église. Vous suivez? Donc qu'est-ce que vous faites avec quelqu'un comme ça? Tranquillement, doucement, vous lui expliquez. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis, vous faites les choses avec grâce. Et puis, vous priez pour que Saint-Esprit aussi travaille son cœur, etc. Il y a des étapes. Parfois, il y a des choses qui se font immédiatement et des choses qui ne se font pas immédiatement. Hein? Donc, ne soyons pas des juges aux pensées mauvaises. Même si on est choqué. Quand vous êtes choqué, vous dites, OK Seigneur, là je suis choqué, mais qu'est-ce que t'en penses toi? Et puis Dieu peut vous répondre, ben, si tu savais comme j'étais choqué la première fois que je t'ai rencontré, vous voyez, ce n'était pas la première fois parce que Dieu nous connaît toute éternité, mais je veux dire par là que, vous voyez, hein? Vous ne voyez pas que Dieu était choqué avec nous? Et quand Dieu sens ce qu'il y a dans notre cœur, notre jalousie, notre amertume. Croyez pas que ça sent mauvais pour lui. On n'aime pas avec des gens qui. Vous avez remarqué qu'on n'aime pas être à côté de gens qui sentent mauvais, qui se sont pas lavés. On n'aime pas ça. Mais Dieu nous supporte. Dieu nous supporte. Il y avait une sœur en Christ qui avait 96 ans, je crois, ou 94 ans. Et puis. Elle avait toute sa vie eu un caractère assez fort et elle impressionnait son monde. C'était une femme d'autorité qui avait une présence, une sorte d'assurance qui impressionnait les gens. Mais parfois, elle se mettait un peu en colère et quand elle voulait avoir ce qu'elle voulait, elle savait l'obtenir parce que comme elle impressionnait tout le monde. Et puis, elle était assez âgée, plus de 90 ans, elle conduisait encore sa voiture. Elle était à Genève. Et puis, il y a un policier qui l'arrête parce qu'elle avait. Soi-disant, je sais pas, brûler un feu rouge, enfin, elle est pas. Vous savez, à cet âge-là, on peut faire une erreur. Mais alors, elle n'a pas accepté, elle dit non, pas du tout. Et puis elle a, c'est elle qui l'a rabroué. Et puis elle était tellement, comment dire, et le pauvre, d'abord c'était une femme d'un certain âge qui avait une certaine prestance. Le pauvre flic, il était tout penaud et il allait laisser repartir. Enfin, c'est lui qui était un peu troublé. Enfin, elle avait réussi à le troubler. Faut le faire quand même, hein, pour vous dire le caractère qu'elle avait. Mais c'est une femme de Dieu, d'accord? Et puis elle repart en bougonnant, en disant, enfin, Seigneur, c'est quand même pas possible. Ta cousine lui dit, est-ce que tu sais que ça fait, parce qu'elle s'était convertie très tôt dans sa vie, toute petite fille. Est-ce que tu sais que ça fait 90 ans que je te supporte comme ça? Saint-Esprit lui dit, lui parle comme ça, en direct. Elle arrête la voiture, se met à pleurer, se repent. Dit, mais Seigneur, est-ce que c'est possible que j'ai fait du mal à tant de monde toute ma vie, sans le savoir, sans m'en rendre compte? Elle était effarée et s'est repentie. Vous voyez? Donc, et elle a changé. Amen. Vous voyez que la marche avec le Seigneur, on n'a pas tout d'un coup. On n'a pas tout juste d'un seul coup. Donc, si ce témoignage-là, que je tiens de source sûre, je peux vous le dire, si ce témoignage-là vous parle, ça veut dire que maintenant, il y a combien de personnes qui pouvaient juger cette femme? Mais Dieu te dit, ne la juge pas, laisse le Seigneur s'en occuper. D'accord? Elle est quand même ta sœur. Vous êtes quand même ensemble, dans le même corps. Ne la juge pas. Vous suivez? Et si tu dois la reprendre, alors tâche de le faire de manière à la gagner et pas à la perdre. Vous suivez le principe? Ok. Oh, mais ça va, on a du temps. Celui qui sert Christ de cette manière, verset 18, est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Et ce qui est intéressant ici, si vous reliez ces deux versets 17 et 18, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, ni le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par Saint-Esprit, celui qui, littéralement, est esclave de Christ, de cette manière, est agréable à Dieu, approuvé des hommes. Ça veut dire que si vous voulez faire avancer le royaume de Dieu, vous devez être mort à vous-même, au même titre qu'un esclave ne s'appartient pas à lui-même, mais il appartient à son maître. Et donc vous ne devez pas chercher votre propre à satisfaire votre propre justice, orgueil, ambition, point de vue, mon opinion, j'ai raison, les adventistes, ils ont tort, ou bien si vous êtes adventiste, j'ai raison, tous ces chrétiens, ils n'ont rien compris. Non, tu es esclave de Christ, tu t'appartiens pas à toi-même, tu sers le royaume.
Mais c'est dur quelque part.
C'est dur, parce qu'on est mort, ça veut dire qu'on doit mourir tous les jours. Exactement, c'est dur.
Et avec les catholiques, on peut aussi.
Avec les catholiques, est-ce qu'on peut faire la même chose? Bonne question. Bien sûr qu'on peut faire la même chose. On doit jamais, si vous voulez, on doit jamais faire de compromis par rapport. On ne fait pas de compromis par rapport à l'Évangile. On reste dans la vérité. Et le problème qu'on a eu avec le mouvement charismatique des années 70-80 en France, c'est que les protestants, enfin le monde protestant, et les catholiques, on a adoré Dieu ensemble. Il y a eu les catholiques étaient baptisés du Saint-Esprit, se mettaient à parler en langue, etc. Il y a eu des choses merveilleuses qui se sont passées. Mais le problème des protestants, c'est qu'au nom de l'amour, au lieu de dire la vérité à leurs frères catholiques en disant, attendez, mais nous, on vous aime. Et puis, on reconnaît que si vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est que Dieu vous accepte. Et jusque-là, notre jeu n'était pas, était mauvais. Et donc, on vous aime et on vous accepte. Mais c'est pas parce qu'on vous accepte qu'on accepte tout ce que vous faites ou tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites. Et parce qu'on vous aime, on va vous dire la vérité. Mais les protestants se sont abstenus de dire la vérité. Ils ont aimé, mais en disant, allez-y, continuez. Et les catholiques, ils se sont dit, ben, c'est bon, alors on continue. Et puis, ils ont commencé à parler en langue à Marie, etc. Et puis, ils sont tombés dans toutes sortes de travers. Et le mouvement charismatique parmi les catholiques, c'est devenu un charabia pas possible. Et ça n'a pas tenu, ça n'a rien donné de solide. Vous comprenez ce que je veux dire, la plupart du temps. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas entraîné de la bonne manière. On aurait pu s'entraider de la bonne manière, mais on ne l'a pas fait. Par crainte de choquer, etc. Donc, l'amour, ça ne veut pas dire ne rien dire. Hein? Bien. Donc, celui qui est esclave de Christ de cette manière, dire que ce n'est pas moi d'abord, mais c'est le royaume de Dieu d'abord. La justice de Dieu, ce n'est pas ma justice. Eh bien, il est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à la construction mutuelle. On se construit les uns les autres. L'édification, c'est ça que ça veut dire. Hein? Il faut être constructif, pas au sens politique du terme, mais au sens biblique du terme. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si les politiciens utilisent ce terme, c'est que ça veut dire ce que ça veut dire. Hein? Soyez constructif. Ne démolissez pas parce que vous, vous pensez avoir raison, alors vous allez tout démolir. Mais non. Ok, je pense avoir raison, mais lui, il pense différemment. Maintenant, est-ce que c'est vraiment essentiel? C'est quoi le plus important? Vous voyez? Et vous mettez Dieu en premier. Vous êtes constructif. Ça ne veut pas dire que vous allez abandonner votre propre conviction, pas du tout. Mais ça veut dire que vous veillez à l'unité du corps. Vous savez si c'est essentiel. Si c'est essentiel, là, vous ne dérogez pas. Mais si ce n'est pas essentiel, dites OK, vous pouvez en parler tranquillement, et puis vous laissez le Saint-Esprit agir. Vous suivez le principe? Comment ça marche? Vous êtes constructif. Verset 20, pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Ben, c'est ce que je viens de dire. Voilà. En vérité, tout est pur. Alors là, ça devient compliqué, verset 20. Tout est pur, mais il est mal pour l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Paul dit tout est pur. Il parle de nourriture ici. Donc je peux manger du cochon alors. Paul dit oui. Pas de problème. Tu veux manger du cochon, tu peux. Tout est pur pour celui qui est pur. Dans le sens que du moment que ta conscience ne te le reproche pas, il n'y a pas de problème. Donc tu collabores avec le Saint-Esprit. Il y avait comme ça un couple en Normandie, je crois que c'est le pasteur Nicole, si je ne me trompe pas, c'était un des pionniers du mouvement de pentecôtistes en Normandie. Et il y avait des discussions sur... Parce que vous savez que dans le Nouveau Testament, même si les non-juifs ont été acceptés dans la communauté en disant, ben, comme Pierre a dit, ne leur faisons pas porter un joug qu'on n'a pas pu porter nous-mêmes, ils avaient quand même décidé dans Acte 15 de leur imposer un minimum de règles pour éviter justement de choquer, puisqu'ils étaient ensemble dans les mêmes assemblées, juifs et grecs. Alors disant, bon, abstenez-vous de manger du sang, et puis abstenez-vous de l'impudicité. Donc, que le mariage soit bien honoré de tous, d'accord, pas de rien en dehors du mariage, et puis en termes de nourriture, abstenez-vous de sang. Voilà, ça on vous le demande. Je crois que c'était tout, il y a peut-être autre chose, mais il me semble que c'était comme une sorte de règle minimum qu'on demandait aux non-juifs pour éviter de vous voyez, en leur disant de toute façon, vous en porterez bien, vaut mieux pour vous, de toute manière. Et alors, ce frère en Normandie, vous savez qu'en Normandie, on mange pas mal le boudin noir, et c'est du sang, d'accord, c'est du sang séché. Et donc, ils avaient aussi le texte de Paul qui dit « Tout est pur pour celui qui est pur », que je tire de Tite, de l'épître de Paul à Tite, du reste, hein, et qui est ici dans Romains, sous forme résumée. Alors, lui et sa femme, ils ont dit « On va prier, on va demander au Seigneur qu'est-ce qu'il en pense ». Et puis, ils avaient prié, et puis ensuite, ils priaient chacun de leur côté chaque matin, et puis quand ils se sont retrouvés au petit déjeuner, il a dit « Alors, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit ?» Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit ? Ils avaient reçu la même conviction. « On ne mangera plus de boudin ». C'est la conviction qu'ils avaient reçue. Ils l'ont mis en pratique. Ils collaboraient avec le Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je veux dire ? S'ils n'avaient pas reçu cette conviction, parce qu'ils aimaient bien le boudin, c'était normand, faut pas rigoler quand même. Donc, s'ils n'avaient pas reçu cette conviction du Saint-Esprit, ils auraient continué à manger du boudin. Mais ils ont dit, Seigneur, qu'est-ce que toi t'en penses ? Qu'est-ce que tu veux pour nous ? Mais ils l'ont imposé à personne. Ils n'en ont pas fait une loi dans leur église. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc c'est ça la sagesse. Hein ? Alors, pour un aliment, en vérité tout est pur, mais il est mal pour l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien, verset 21, de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui, pour ton frère, est une cause d'achoppement, de chute ou de faiblesse. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est bien de ne pas toucher à ces choses dans la mesure où tu sais que pour ton frère, ça peut le faire tomber, dans le sens qu'il ne sera pas cohérent entre ce qu'il croit et ce qu'il mange.
Hein ? Est-ce que ça veut dire que, par exemple, pour revenir à l'histoire de Bouddha,
ouais,
si eux, ils reçoivent des invités, ou ouais, sont invités, tu vois, et les invités, ils mangent du boudin. Donc ceux qui reçoivent, ils ne vont pas manger du boudin pour ne pas faire tomber les autres.
Bon, déjà, si tu reçois, c'est toi qui fais ton menu, donc tu es tranquille. Si tu es reçu chez quelqu'un, et qui t'offre à manger, et que dans ce qui t'offre à manger, il y a quelque chose qui te trouble au niveau de ta conscience, tu peux lui dire poliment que tu n'en manges pas. sans donner, si vraiment dans l'explication, tu dis, écoute, il n'y a pas de problème pour que vous en mangez vous, mais si ça vous fait rien, pour moi, ça me pose un problème. Est-ce que ça va si j'en mange pas? Tu comprends? Et en général, c'est accepté, ça. Mais ne pas en faire un sujet de, écoutez, oui, c'est très facile, hein, de dire, écoutez, moi, je suis chrétien, vous, je sais pas, mais oui. D'accord? Dire non, c'est, écoutez, excusez-moi, c'est à titre personnel. Il ne faut pas vous inquiéter, c'est moi, c'est pour moi. Il y a des chrétiens qui ne boivent pas de vin. Ils ont reçu à cœur de ne pas boire de vin. Ce n'est pas parce que c'est un péché de boire du vin. Vous voyez, dans ce sens-là. C'est que pour eux, ils savent, il vaut mieux pas. C'est leur conscience personnelle. C'est ce que Dieu leur demande. Donc ils n'en boivent pas. Peut-être qu'au bout de 10 ans, c'est que Dieu leur dit, maintenant tu peux en boire, c'est bon. Mais pendant cette période-là, je ne voulais pas que tu en boives, c'était partie de ta consécration. C'était comme ça. Ça arrive, hein? Je connais quelqu'un, pendant des années, il n'a pas bu de vin. Puis un jour, le Seigneur lui dit, maintenant c'est bon, tu peux en boire. Mais bien sûr, modérément, on est d'accord. Hein, oui, pourquoi? C'est une question de consécration, de mise à part. Il y avait un temps où il devait se mettre à part de manière particulière, à cause du ministère, à cause de certaines charges qu'il avait, et de c'était une discipline que Dieu lui demandait, il l'a fait. Mais il n'a jamais imposé à personne d'autre. Vous comprenez?
Moi, j'accepte pas de prendre la Sainte Cène avec du jus de raisin.
Pour toi, il faut que ce soit du vin. Mais voilà, mais voyez, mais gardez. Qu'est-ce que dit Paul? Regardez, qu'est-ce qui est marqué après, verset 22. Cette foi que tu as, cette conviction que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. N'en fais pas un pataquès. C'est ça la clé. Vous voyez? Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. D'un côté, toi, tu as une conviction, tu la gardes pour toi devant Dieu, t'en fais pas une affaire. Après, heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. C'est-à-dire que si par contre, tu as cette conviction et par crainte du regard des autres, tu dis, oh, bah tant pis, là, je vais quand même boire du vin parce qu'il y a des gens qui sont là, ils vont pas comprendre. Non, tu as une conviction, bah, jusqu'au bout de ta conviction. Ose dire, j'en boirai pas. Vous comprenez? Voilà, c'est une question de. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Parce que sa conduite ne résulte pas de la foi. En d'autres termes, il n'est pas cohérent entre ce qu'il croit et ce qu'il fait. On va prendre l'exemple de Galates chapitre 2, c'est intéressant. Alors, en parenthèse, pour ceux qui prendraient des notes, vous avez des passages parallèles. Vous avez 1 Corinthiens 8, 1 Corinthiens 10, vous avez Tite chapitre 1, 1 Timothée chapitre 4. Acte 15, on l'a lu. Tous ces passages-là, donc je répète, 1 Timothée 4, 1 Corinthiens chapitre 8, chapitre 10, tout ça, c'est des passages où Paul parle du même sujet. Vous voyez, donc vous pouvez approfondir. Mais il y a aussi Galates chapitre 2 qu'on va lire ensemble pour conclure, et qui est assez intéressant. Vous allez comprendre ce que Paul veut dire quand il dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas cohérent entre ce que vous croyez et ce que vous faites, eh bien, c'est pas bien. Il dit quoi, Galate? Galate 2. Hein. Sais plus où j'en suis. Je sais plus où c'est. Lorsque Céphas. Oui, c'est ça, verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, on est dans Galate 2, 11. Lorsque Céphas, donc c'est Pierre, vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était condamnable. C'est Paul qui dit ça. Vous voyez que pour Paul, il n'y avait pas. C'est pas parce que c'est Pierre que je vais. Quand c'est la vérité, c'est la vérité. Paul était assez difficile à vivre. Hein. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, alors les gens de chez Jacques, c'était le parti des pharisiens, c'était ceux qui étaient plutôt légalistes et qui auraient voulu imposer la circoncision et toutes ces choses aux non-juifs qui arrivaient dans l'assemblée. Avant la venue de quelques personnes de chez Jacques. Là, rappelez-vous, on est à Antioche. Antioche, contexte, le contexte d'Antioche, la plupart des chrétiens qui sont à Antioche sont des Grecs qui ne sont pas juifs, qui ont accepté Jésus-Christ par la foi et qui ont été sauvés, qui ont été baptisés. Amen. Mais ces gens-là, ils mangent à la manière païenne. Ils mangent de la viande, ils ne se lavent pas les mains avant de manger, enfin, ils ne connaissent pas tous les trucs juifs, là, enfin, la loi de Moïse. Donc avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, les gens de chez Jacques ils viennent de Jérusalem. C'est ceux qui représentent, voyez, la loi de Moïse, etc. Pierre était tout seul à Antioche avec Paul et avec les amis chrétiens d'Antioche, et lui, il mange avec eux, il ne s'inquiète pas, Pierre. Ça fait longtemps que Dieu lui a dit, tue et mange, d'accord? Et puis arrête maintenant avec tes histoires de règles et de règlements, parce que moi, je sauve par la foi, et ce qui vous sauve, c'est la foi. Donc pour Pierre, à titre personnel, il n'avait pas de problème de manger comme les païens. Je ne pense pas qu'il aurait mangé du sang pour autant, vous voyez, je veux dire. Mais de ne pas se laver les mains avant de manger, etc. Ce n'était pas un problème pour lui. Il était libéré par rapport à ça. D'accord? Donc, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait, et surtout, ce n'était même pas, encore même pas de ce quoi on mange. Peut-être que Pierre mangeait. C'était même le simple fait de manger avec des païens, c'était interdit aux juifs. C'était interdit. Regardez par exemple dans Jean chapitre 18 ou 19. Quand, mais bon, on ne va pas regarder maintenant, mais quand les sacrificateurs arrivent chez Pilate avec Jésus qu'ils veulent faire condamner par les Romains, eh bien, ils n'entrent pas dans le palais de Pilate, qu'on appelle le prétoire, de peur de se rendre impur parce qu'on était juste la veille de la Pâque. Et c'est le Romain Pilate, qui représente l'autorité quand même, qui doit venir vers eux parce qu'il connaît très bien les coutumes juives et il sait qu'eux ne vont jamais entrer chez lui. Parce que ça les rendrait impurs. Juste le fait de mettre les pieds dans la maison d'un païen, ça te rend impur. Quand c'est la veille de la Pâque, vous voyez jusqu'où ça allait. Donc manger avec eux à la même table, c'est même pas la peine d'y penser. Il n'y a aucun jour où tu peux le faire. Vous voyez? Et pourtant Pierre, sans problème, a mangé avec ces païens qui sont en Jésus-Christ. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'il mangeait? Ça, c'est pas précisé. Mais ne serait-ce que pour ça, il mange avec eux sans problème. Pourquoi? Parce qu'il avait appris, dans la maison de Corneille, Dieu lui avait appris, il lui dit maintenant, ce que toi tu regardes comme impur, moi, si je l'ai déclaré pur, c'est pur. Alors tu y vas quand même. Ça, c'était l'expérience de Pierre. Donc à Antioche, Pierre, il n'y a pas de problème, il est comme un poisson dans l'eau. Il n'a pas peur, ça ne le dérange pas. Vous suivez? Je répète, Galates chapitre 2, verset 12. Avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, Pierre mangeait avec les païens. Mais après leur venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. C'est-à-dire que quand Pierre voit qu'il y a des gens de chez Jacques qui débarquent, discrètement, il se lève de table, et puis il va semblant d'aller aux toilettes ou quoi, et hop, tout à coup, il disparaît, on ne le voit plus. Il ne veut pas que l'entourage de Jacques, qui représente le parti des pharisiens, les légalistes qui voulaient que les païens soient circoncis, etc., il ne veut pas que ces gens le voient manger avec des païens, parce qu'il sait qu'il va se faire critiquer à Jérusalem après. Vous suivez? Par crainte des circoncis, la crainte du regard des autres. Ok. Comme lui, les autres juifs, parce que Pierre n'était pas tout seul, il avait une équipe avec lui, il y avait des juifs qui étaient, et même des juifs d'Antioche qui étaient là et qui mangeaient sans problème avec les païens parce qu'ils avaient compris la grâce de Dieu, hop, eux aussi, son génie dit, si Pierre s'en va, nous aussi on va s'en aller, parce que Pierre c'était quand même un leader, vous voyez, je veux dire, usèrent aussi de dissimulation, vous voyez, le mot-clé c'est dissimulation ici, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie, donc. Paul ne mâche pas ses mots, c'est de la dissimulation, c'est de l'hypocrisie. Voyez, soyez cohérents entre ce que vous faites et ce que vous croyez. Si vous croyez que ce n'est pas un problème de manger avec les païens, eh bien ne vous levez pas discrètement quand l'entourage de Jacques arrive. Voyez, assumez ce que vous croyez. Vous suivez le principe? Quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous, y compris l'entourage de Jacques, et là Paul ne s'est pas gêné, voyez, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïser? Nous, nous sommes juifs de naissance et non, etc. Puis ensuite, il y a tout un développement. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est assez compliqué en soi. Mais vous prenez quelques traductions un peu modernes et ça vous aide. Donc, en conclusion, être cohérent entre ce que je crois et ce que je fais. Et ne pas avoir peur du regard des autres. Ne pas m'enorgueillir. Pour, vous voyez, je veux dire, vous avez par exemple, je peux prendre l'exemple de Bethel, sans H, qui viennent d'Espagne, c'est une œuvre qui s'occupe des drogués, et bien chez eux, personne ne boit de vin, ni à la maison, ni nulle part, c'est un principe qu'ils ont dans leur communauté, même s'ils pourraient en boire, pour ce qui est des responsables, ils ne le font pas, même s'ils viennent chez moi, qu'on est entre nous et qu'il n'y a pas de regard extérieur, je sais qu'ils n'en boiront pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent que pour les gens qui arrivent dans leur communauté et qui sortent de la drogue, etc., c'est un piège. Donc c'est clair, pour eux, il n'y a pas de... Vous voyez, ça ne fait pas un pli. C'est leur engagement, c'est leur... Mais il y a un contexte. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est leur conviction. et ils ont le droit d'avoir leurs convictions. On ne va pas les juger pour leurs convictions. Vous savez ce que je veux dire? Mais ils ne sont pas gênés si nous, tout à coup, on boit du vin, dans une circonstance où, vous voyez, ils savent très bien, ils savent où est-ce qu'ils nagent. Ça va pas, eux, ça ne va pas les troubler, parce qu'ils sont enseignés par rapport à ces choses. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a la question de la viande halal. C'est le même principe. Faites selon votre conviction. Mais si vous allez plus loin par rapport à la viande halal, lisez quand même 1 Corinthiens 8 et 1 Corinthiens 10 par rapport à la viande sacrifiée aux idoles. Vous voyez? Là, il y a d'autres principes qui ne sont pas dans Romains 14, qui sont avancés par Paul. Ce que Paul nous dit ici dans Romains 14, c'est vraiment le principe de ne pas juger les autres, de ne pas se laisser juger par les autres, vous voyez? D'être cohérent entre ce qu'on croit et ce qu'on fait, et de veiller à l'avancement du royaume de Dieu en étant esclave de Christ. On est mort à nous-mêmes, et ce qui compte pour nous, ce n'est pas d'avoir raison, mais c'est que l'évangile avance. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Amen.